autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Jérémy Besset à la réalisation pour une émission astronomique et intergalactique. Dans l'œil du James Webb Télescope, nous remonterons à l'aube de l'univers, carrément, aux confins du visible et même au-delà, jusque dans l'invisible, dans l'infrarouge, pour découvrir la naissance des étoiles dans de véritables rivières célestes et celle des innombrables galaxies dans de formidables fleuves cosmiques. C'est l'astrophysicien et conteur David Elbaz du CEA qui nous entraîne dans cette hallucinante danse du cosmos, pour reprendre le sous-titre de son dernier ouvrage, Les 10 001 nuits de l'univers, qui vient de paraître chez Odile Jacob et dont nous avons, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Car comme nous allons le découvrir ensemble, nous sommes tous les enfants de la danse des galaxies. Autour de la question pourquoi et comment remonter les 10 001 nuits de l'univers, bienvenue pour entrer dans la danse astronomique, en découvrant pourquoi l'essentiel est invisible pour les yeux, mais pas pour le James Webb Télescope.
Effectivement, lorsqu'on a découvert ces premières images avec le James Webb Télescope, ce qui est le plus impressionnant, c'est cette finesse et le nombre de détails. C'est-à-dire que moi, j'ai cette image assez incroyable du quintet de Stéphane, qui sont 5 galaxies, où normalement, le quintet de Stéphane se suffit à lui-même pour être beau. Et en fait, si vous zoomez juste derrière le quintet de Stéphane, vous allez voir des dizaines, des centaines de galaxies. Donc en fait, on a des détails par milliers qui apparaissent. Et en fait, il faut zoomer pour déchiffrer toutes ces images.
Il faut zoomer pour remonter encore et toujours plus loin dans l'espace et dans le temps, jusque dans les champs les plus profonds de l'univers, comme le dit le planétologue Sylvain Boulet. Et ça, c'est désormais possible grâce au James Webb Télescope et à l'instrument, à la caméra MIRI que vous avez contribué à fabriquer au CEA. David Elbaz, bonjour.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous, David Elbaz, pour décrypter donc toutes ces fabuleuses images. C'est toujours un très grand plaisir de recevoir l'éminent astrophysicien que vous êtes, directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA, car vous êtes aussi un formidable passeur, conteur, raconteur de votre science astrophysique, auteur de plusieurs romans et d'essais. On peut citer À la recherche de l'univers invisible et La plus belle ruse de la lumière. Sauf que cette fois-ci, David Elbaz, vous faites encore plus fort, si j'ose dire, avec ce nouvel ouvrage qui sort précisément aujourd'hui, intitulé Les 10 001 nuits de l'univers et sous-titré La danse du cosmos, qui nous réserve de multiples surprises et des pas de danse cosmiques. Mais d'abord, évidemment, un arrêt sur ce titre. Pourquoi 10 001 nuits de l'univers, David Elbaz, ou plutôt Scheherazade, sort de ce corps ?
Alors bien sûr, il y a une analogie avec Scheherazade pour nous rappeler que la question est fondamentale en science et qu'on passe toujours d'une question à une réponse qui amène à une autre question. C'est pour ça que le livre, à chaque fois, se termine par « mais ça, c'est une autre histoire » et on avance. Alors pourquoi 10 001 nuits ? Parce que il se trouve qu'entre la découverte de la première planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil en octobre 95 et la première image de l'univers très lointain avec le télescope Hubble et aujourd'hui, il s'est écoulé à peu près 10 001 nuits.
Depuis 95 jusqu'à 2022,
voilà.
En gros 10 001 nuits.
Voilà. Hein ? Voilà, c'est ça exactement. Il se trouve que pour les Chinois, 10 000, c'est le nombre de l'infini. Alors 10 000 et une, c'est tenter de voir au-delà des limites de l'infini.
Au-delà de l'infini. Alors vous citez d'ailleurs aussi dans votre superbe ouvrage Lao Tzu, le Tao Te King, le 1 engendre le 2, qui engendre le 3 et qui engendre les 10 000 êtres.
Exactement. 10 000, c'est le nombre qui caractérise l'infini pour les Chinois. Et donc, c'est l'infini des possibles. C'est aller essayer de voir si l'univers est infini, essayer de voir au-delà des limites de ce qui est observable. C'est ce qu'on tente de faire. Essayer de voir l'universel caché derrière la singularité, et essayer de reprendre le vœu de Edgar Poe lorsqu'il écrivait...
Encore un écrivain.
Un écrivain, et Edgar Poe était dans la ville de Baltimore lorsqu'il écrivait le 1002e conte de Scheherazade, dans lequel il s'interroge sur quelle serait la nouvelle histoire que raconterait Scheherazade dans les temps modernes. Et il dit, elle verrait que il y a quelque chose de... Elle s'adresse au roi, elle lui dit, il n'y a plus magique encore que voler sur un tapis volant, que, etc., etc. C'est que chaque être ordinaire peut voir à des millions d'années dans le passé en regardant le ciel. Or, dans la ville de Baltimore, aujourd'hui, au moment où nous parlons, des êtres humains sont en train de télécommander le télescope spatial James Webb pour plonger jusqu'aux confins de l'univers et essayer de voir au-delà des limites dans la même ville où Edgar Poe écrivait.
Il y a pas mal d'intuitions, hein, d'auteurs, d'écrivains, de sagesse aussi. Et puis, il y a des intuitions de scientifiques. On y viendra parce que vous en avez eu de sacrées, David Elbaz, de sacrées intuitions. Revenons donc sur ce satellite James Webb Télescope qui voit dans l'invisible, grâce à une caméra, Miri, que vous avez conçue au CEA, votre équipe l'a conçue, David Elbaz, et qui permet de voir dans l'invisible. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de voir bien plus loin que Hubble. Dans l'infrarouge, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On va regarder dans l'infrarouge. Alors, il y a un ensemble d'instruments qui sont sur le télescope James Webb. La caméra Miri, elle va voir la poussière d'étoiles. Elle va pouvoir voir derrière les grains de poussière. Elle va voir les molécules dans les atmosphères d'autres planètes. Et elle va aussi voir loin, à cause du décalage vers le rouge de l'univers. Donc, c'est toutes ces caractéristiques-là qui font qu'elle est un outil exceptionnel sur ce satellite exceptionnel. Et... une chose à savoir, c'est que pourquoi on parlait de ces 10 000 et une nuits, c'est que au cours des 20 et quelques dernières années,
depuis 1995,
on n'a jamais vu autant de découvertes scientifiques se dérouler à un rythme aussi incroyable.
Vous parlez de siècle d'or, hein,
Oui, parce qu'on se rend compte qu'on a vu l'image d'un trou noir, le trou noir au centre de la Voie lactée, les ondes gravitationnelles. On a vu naître des planètes analogues à la Terre au moment de leur naissance. On a vu 5000 exoplanètes. Enfin, voilà. Et alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce que ça change, toutes ces découvertes sur ce que nous pensons de l'univers, de notre place dans l'univers, de notre situation dans le grand récit de l'univers. Et plutôt que de raconter toutes ces histoires les unes les autres, j'ai choisi celle que j'ai vécue de l'intérieur. Il y a un véritable changement de paradigme, on dit, sur nos origines.
Et c'est qu'on peut remonter de plus en plus loin, donc dans l'espace comme dans le temps, et de manière de plus en plus précise. C'est-à-dire que ce que Hubble montrait, c'était des formes un peu... mais qui n'étaient pas justes, en fait. C'est ça.
Exactement. Voilà. L'image que j'aime bien donner, c'est que Hubble ne pouvait pas distinguer un écureuil d'un éléphant. Alors, quelle est la différence entre un écureuil et un éléphant ? La forme et la masse, disons, au premier ordre. Et Hubble, voyant que les étoiles les plus massives qui rayonnent dans l'ultraviolet, ne savait pas voir la majorité des petites étoiles dont la lumière nous arrive dans l'invisible, dans l'infrarouge. Mais cette lumière-là, pour la capter, il faut des détecteurs qui voient dans l'infrarouge et il faut un très très grand télescope parce que ce sont des grandes longueurs d'onde. Donc il nous fallait le James Webb et on le savait au moment même où on a lancé Hubble qu'il atteindrait ses limites à cause de ça. Donc le projet du James Webb était là et maintenant, nous avons des images qui nous révèlent une face, plusieurs faces de l'univers qui sont surprenantes et qui étaient autrement totalement inaccessibles.
Alors ces images, on y reviendra, elles sont extraordinaires pour nous qui les regardons, profanes, elles sont d'une beauté inouïe. Elles sont aussi pleines d'enseignements pour vous, scientifiques, vous êtes en ce moment même en train de décrypter et d'écrire des publications avec à chaque fois des surprises. Hein.
Exactement. On est en train en ce moment d'écrire des articles sur des découvertes qui sont liées aux images de Hubble. Je vous donnerai par exemple un exemple, si vous me permettez. Le 12 juillet de cette année, Joe Biden, le président des États-Unis, présente la première image du télescope James Webb. L'idée, c'est de dire qu'on va aller voir aux confins de l'univers. On cherche des petits points rouges qui sont celles des galaxies qui ont été le plus décalées vers le rouge. Bon, tout le monde regarde ça. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est quelque chose d'autre, quelque chose que je n'attendais pas. De la lumière diffuse entre les galaxies qui montre les étoiles qui ont été arrachées des galaxies. Et on parle de harcèlement galactique. Dans la vie d'une galaxie, lorsqu'elle rencontre un gang de galaxies, elles se font complètement dépouiller. On voit des amas d'étoiles qu'on appelle les amas globulaires avec une finesse qu'on n'avait jamais vue, à tel point qu'on a mesuré leur âge. 5 milliards d'années. On est donc capable de remonter à l'heure du crime. On est capable de remonter au moment où ça s'est passé avec une finesse totalement imprévue. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait faire ça. Et ça, ce n'était pas du tout l'objectif. C'était la surprise, le paquet cadeau qui fait partie d'un ensemble de surprises qu'on a eues, que je vais vous en donner juste un exemple.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera le James Webb Télescope, alors tout de suite une nouvelle question pour vous, David Elbaz, soulevée depuis Dakar par l'astronome Maram Kéré, qui œuvre pour la promotion de l'astronomie et des sciences spatiales au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest, et qui collabore régulièrement avec la NASA. On écoute Maram Kéré.
Bonjour David Elbaz, je pense que la question va être très simple. Aujourd'hui, on a toute une panoplie en fait de possibilités avec ce James Webb Space Telescope qui nous promet en tout cas de très belles découvertes. Mais à votre niveau, quelle est la découverte, vu tout le travail que vous avez mené jusqu'à présent dans le domaine de l'astrophysique, quelle est la découverte la plus attendue à votre niveau? Qu'est-ce que vous espérez voir apparaître sous le regard du James Webb et qui pourrait changer, je pense, toute votre vie d'astrophysicien?
Votre réponse, David Elbaz.
Alors justement, c'est une très bonne question et voilà, je remercie à ce collègue de me la reposer et ce collègue de me la reposer parce qu'en fait, on attend effectivement quelque chose. Je vous ai dit, éléphant, écureuil. Mm-hmm. Imaginez qu'on s'aperçoive qu'il y avait des dinosaures, une ère des dinosaures dans l'univers et qui ont tous disparu. En fait, on a des indices que ça s'est passé. C'est ce qui me tient le plus à cœur en ce moment, je pourrais vous dire.
Des galaxies dinosaures.
C'est-à-dire qu'au tout début de l'histoire de l'univers, alors qu'on voyait que des bébés galaxies, mm-hmm. on voit des galaxies énormes, gigantesques, surpeuplées d'étoiles, qu'on a commencé à percevoir totalement inaccessibles au télescope spatial Hubble. L'idée, c'était que James Webb devrait les voir comme le nez au milieu de la figure. Mmh. Et là, dans les images qu'on a commencé à analyser, on les voit. On les voit apparaître et toute la question, c'est comment sont-elles nées et est-ce que ça remet en question nos connaissances, nos théories, nos compréhensions? Et effectivement, l'une des grandes découvertes qui est en train d'émerger là en ce moment, c'est qu'on voit même les ancêtres de ces dinosaures et systématiquement, les galaxies sont trop massives pour tous les modèles dont on dispose aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas qu'elles étaient si massives au départ, c'est ça?
Elles ont formé trop d'étoiles, trop vite, mm-hmm. ça ne colle pas avec tous les calculs qu'on avait faits à l'ordinateur. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va remettre en question? Et c'est quand les modèles ne marchent pas que nous, on est contents, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avancer. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait prévu, qu'on s'attendait à voir parce qu'on avait des indices. Et là, maintenant, on va pas pouvoir faire marche arrière, il va falloir avancer, trouver une alternative. Et on a déjà des idées sur des façons de le faire qui sont liées justement à ce que je raconte dans le livre.
À ce que vous racontez dans le livre, et vous racontez notamment dans le livre qu'il y a une galaxie qui a changé votre vie justement, parce que vous aussi eu des intuitions. On a l'impression, franchement, David Elbaz, en lisant votre ouvrage « 10 000 et une nuit de l'univers », qui a été écrit un peu avant même tout le résultat, toutes les images et tous les travaux du James Webb Télescope, que vous pressentiez un peu ce que nous démontre, ce que nous livre, les images que nous livre le James Webb Télescope.
Oui, c'est vrai, quand on voit l'histoire des sciences avec un peu de recul, on a l'impression qu'il y a une marge d'escalier énorme, on fait une découverte, on voit quelque chose. Et en général, quand on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'indices qui sont là. Donc là, on rentre un peu effectivement dans comment un chercheur, une équipe de chercheurs, quand ils regardent l'univers, est amené à avoir ses intuitions. Personnellement, cette idée des galaxies, que j'appelle les galaxies dinosaures, je l'ai rencontrée pendant ma thèse, lorsqu'on a vu une galaxie qui n'aurait pas dû exister. Elle était beaucoup trop massive, elle formait beaucoup trop d'étoiles, très tôt dans l'histoire de l'univers. Et la première réaction de mes collègues, ça a été de dire « Bon, c'en est une. On ne va pas changer tout ce qu'on sait de l'univers pour un objet. Mmh. » Et en général, quand on voit une chose dans l'univers, c'est qu'il y en a plein. C'est juste qu'on n'avait pas vu le reste.
Ah oui.
Voilà. Et donc ça a permis, en avançant là-dedans, de s'apercevoir qu'effectivement, il y avait une petite révolution de l'invisible, de ce qu'on voit dans l'infrarouge, dans notre compréhension de la naissance des étoiles et des galaxies, qui est finalement nos origines. Parce qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est l'histoire d'autres galaxies, mais qui reproduit l'histoire de notre galaxie aussi. Donc on est en train d'essayer de mettre bout à bout notre histoire, et on s'aperçoit qu'il y avait des pans invisibles qui sont révélés maintenant.
Alors parmi ces pans invisibles, dévoilés, vous avez un très joli mot, vous dites c'est une sorte d'échographie des étoiles avec le James Webb télescope. Ce sont les rivières célestes dans lesquelles sont nées les étoiles. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'astrophysique.
C'est de l'astrophysique pure. Ça, c'est extraordinaire, effectivement. C'est quand on regarde les zones les plus obscures de l'univers.
C'est les plus lointaines dans le temps et dans les...
Alors non, même dans notre galaxie. Les zones où il n'y a pas d'étoiles, les plus enfouies. Le 23 mars 1895, il y a un astronome qui s'appelle Ed Barnard. Il dit « J'ai vu un trou dans le ciel ». En fait, William Herschel l'avait vu avant lui. Il se dit « C'est un trou vide d'étoiles ». Ce qu'il ne savait pas, c'était que c'était exactement l'inverse. Il était face à une maternité d'étoiles, à un nuage de poussière, une pouponnière d'étoiles, un nuage en train de donner naissance à des étoiles. Et quand on rentre dedans, grâce à l'infrarouge, on voit les veines à l'intérieur de ce cœur dans lequel naissent les étoiles, qui sont de véritables rivières célestes, qui ressemblent d'ailleurs au Nil vu du ciel, qui fécondent le désert dans l'Égypte ancienne. Et là, c'est les rivières célestes qui fécondent l'espace, le désert cosmique, en donnant naissance à des étoiles. Ce sont dans ces petites rivières, à l'échelle cosmique,
de l'espace, oui, c'est ça.
que naissent les étoiles. Et ça a été effectivement une des découvertes dans l'infrarouge.
Autre découverte, enfin si on agrandit un peu le spectre, les galaxies, elles naissent dans des fleuves cosmiques. À chaque fois, ce sont les titres des chapitres de votre livre et on est bouleversé par la beauté des images et par ce que ça implique. Donc rivière pour les étoiles et fleuve pour les galaxies.
Voilà, imaginez, les galaxies c'est comme des oasis. Voyez une oasis au milieu du désert, le désert du cosmos, et vous vous dites, il doit y avoir une nappe phréatique, quelque chose qui nourrit, sinon il n'y aurait pas d'eau. Quand on a commencé à regarder les réservoirs de matière des galaxies avec lesquelles elles donnent naissance aux étoiles, on s'est aperçu que l'univers aurait dû cesser de former la moindre étoile il y a 10 milliards d'années, avant la naissance même du Soleil. Bon, on sait que c'est impossible, puisque le Soleil est né il y a 5 milliards d'années.
Tout aurait dû s'arrêter
il y a 10 milliards d'années.
Okay.
Avec ce qu'on voit, avec les réservoirs dont disposent les galaxies. C'est comme un automobiliste qui vous dit « je vais faire le tour de la planète » et il a 20 litres d'essence. Vous lui dites « c'est impossible ». En fait, si, c'est possible, à condition qu'il y ait des stations-service. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le cosmos. On s'est aperçu que les galaxies étaient nourries par des espèces de fleuves cosmiques qu'on a découvert en reproduisant l'univers dans un ordinateur. Donc, on est devenu un peu des petits dieux qui fabriquent l'univers dans un ordinateur.
Modélisation.
Alors, pourquoi je dis petit dieu ? Parce qu'il se trouve que l'ordinateur le plus puissant, il y a quelques années, avec lequel ça a été fait, était dans une église désacralisée dans laquelle des astronomes ont recréé l'univers. Et c'est là où on a vu apparaître ces fleuves. Et là, ça a commencé à ouvrir un pan pour expliquer tout un tas de choses.
Pour expliquer quoi ? Pour expliquer cette fécondation de l'univers, que l'univers est continué, se perpétue et se féconde lui-même à travers
ces... Exactement. C'est la clé de la fertilité dans le désert cosmique que ces fleuves invisibles qui nourrissent les galaxies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous faites passer de l'eau dans un moulin, il va se mettre à tourner. Et donc, la clé, c'est que les galaxies vont se mettre à tourner, à danser sur elles-mêmes. Ça vient aussi des fleuves. Et ce mouvement-là, il est fondamental pour comprendre pourquoi la matière ne s'effondre pas au centre, par exemple pour nourrir le trou noir. Et donc, on se rend compte qu'avec cette dynamique globale de l'univers, ces fleuves invisibles, ces rivières célestes, on change complètement le paradigme dans lequel on pensait que naissaient les étoiles et les galaxies dans l'univers, et tout est interconnecté.
Tout est interconnecté, tout tourne, tout danse, d'où ce sous-titre, la danse du cosmos, parce qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises avec vous autour de la question comment entrer dans cette danse formidable du cosmos avec vous, David Elbaz, histoire de découvrir pourquoi et comment nous sommes tous les enfants de la danse des galaxies, ça c'est le titre de votre dernier chapitre. On écoute, allez juste pour le plaisir, Cosmic Dancer de T-Rex et on s'envole au plus près des étoiles sur RFI.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strength to dance so late. Is it strength to dance so late? Strange to dance so soon.
myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of. Myself out of the
T-Rex et son Cosmic Dancer sur RFI, bande originale du film Billy Elliot, vous vous en souvenez peut-être, et bande originale de La Danse du Cosmos, c'est le sous-titre de votre ouvrage, David Elbaz. Son titre, Les 10 000 et une nuits de l'univers, ouvrage qui vient de paraître aujourd'hui même chez Odile Jacob, et dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question jusqu'où nous entraînera le James Webb Télescope et ses fabuleuses images, David Elbaz, vous nous en décrivez une de ces images. Alors, je ne sais pas laquelle, elles sont toutes superbes. Celle de la couverture, celle de l'intérieur, celle qui vous a marqué le plus ou la plus impressionnante. Laquelle choisiriez-vous à faire rentrer dans le cerveau de nos auditeurs?
Alors, par exemple, celle de la couverture, ouais, c'est le quintet de Stéphane dont on entendait tout à l'heure parler. Là, il se passe quelque chose de prodigieux. C'est une galaxie qui arrive à toute vitesse, qui rencontre d'autres galaxies, qui se percutent, qui font des ondes de choc. Et que se passe-t-il? Eh bien, ça engendre de nouvelles étoiles. Ça propulse de la matière à l'extérieur. Ça ensemence l'espace intergalactique. Ça allume un trou noir qui était endormi et qui va se mettre à devenir de plus en plus lumineux en captant la matière qui passe à côté de lui. Ça crée des antennes où vont naître des bébés galaxies. C'est donc toute une histoire de naissance, de vie et de mort dans une image. Et tout ça, on arrive à le décrypter en regardant les différentes couleurs de la lumière qui nous enseignent pour chacune des couleurs une information particulière. Ici naissent des étoiles, ici s'allume un trou noir, ici des molécules complexes sont en train de naître avec des cycles benzéliques, comme ceux qui sont dans les acides aminés, c'est peut-être les premières briques de la vie. Ici tourne une galaxie, ici deux galaxies se croisent et vont peut-être arrêter de danser et devenir stériles demain. Tout ça dans une image.
Tout ça dans une image, et je retiens les derniers mots que vous avez prononcés. Ici, deux galaxies s'arrêtent de tourner ou de danser, donc le mouvement s'arrête. Et oui, elles vont devenir stériles. Ça veut dire qu'il ne faut jamais arrêter de danser?
Il ne faut jamais arrêter de danser. Dans l'univers, la danse, c'est ce qui permet à la matière d'éviter de tomber vers le centre, de s'effondrer. C'est grâce à la danse que la matière va engendrer de nouvelles étoiles. Et vous savez, la Voie lactée, elle danse. Nous, au moment où je vous parle, oui, dans ce studio, on est en train de se déplacer à 800 000 km/h avec le Soleil autour du centre de la Voie lactée. Pourquoi? Bon, pour quelle raison? Je ne le sais pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça engendre des vagues. Ça engendre des vagues dans la Voie lactée, dont l'écume engendre de nouvelles étoiles. Et donc, nous participons à l'ensemencement de la Voie lactée. Mais dans 4,5 milliards d'années, nous allons vivre une collision avec les galaxies Andromède qui foncent tout droit sur nous.
Mmh. Et de dans 4,5 milliards d'années.
C'est dans longtemps et pas longtemps. 4,5 milliards d'années, c'est après-demain.
Et d'accord.
Eh bien, dans cet avenir relativement lointain, on est capable de prédire avec une grande précision, en particulier grâce au satellite Gaïa, ce qui va se passer. Et les deux galaxies dans leur collision vont probablement cesser de danser, vont donner naissance à une nouvelle galaxie qui s'appelle Lactomède, le mélange de la Voie lactée et de Andromède, et peut-être qu'elle cessera de danser. On le sait parce qu'on voit autour de nous des galaxies qui ne dansent plus. Ces galaxies qui ne dansent plus, c'est-à-dire qui n'ont pas leur beau disque avec leurs bras en spirale, eh bien, elles sont toutes devenues stériles depuis des milliards d'années, c'est-à-dire qu'elles ne forment plus de nouvelles étoiles. l'univers nous montre que dès lors qu'une galaxie cesse de danser, elle perd sa capacité d'engendrer de nouveaux mondes.
Et le James Webb Télescope vous permet de regarder, d'observer cette danse des étoiles et de l'univers et de nous faire passer ces images. Alors des images reconstituées évidemment, hein, parce que celle de Stéphane, du quintet de Stéphane, magnifique, qui illustre votre ouvrage, ce sont quand même des images retouchées. À ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par une de vos consoeurs et amies, la chercheuse Brigitte Zanda, Madame Météorite, au Muséum National d'Histoire Naturelle. On l'écoute.
Bonjour David, je sais que les images qui sortent du James Webb Space Telescope en fait sont plutôt des images de communication, en fait pas des images scientifiques qui sont directement utilisées par les scientifiques. Mais pour moi pourtant, des représentations, même des peintures hein, faites par exemple du disque protoplanétaire, c'est parlant quand même si je sais que c'est totalement inexact. Et je voulais savoir si quand même le fait de voir ces images pour toi c'était tout de même révélateur de quelque chose, si ça t'aidait quand même à comprendre des choses.
Votre réponse, oui, David Elbaz.
Brigitte Zanda a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, les couleurs sont artificielles. D'abord parce qu'on est dans l'infrarouge, donc ce n'est pas accessible à l'œil. Le rouge, le bleu vont être des couleurs avec des longueurs d'onde différentes. Néanmoins, nous, lorsqu'on voit des couleurs, on sait, par exemple, dans l'image du champ dit profond de l'univers qui essaye de plonger le plus loin possible dans l'univers.
Donc de remonter le plus loin possible dans le temps.
Dans le temps, parce que la lumière met du temps à nous arriver. Lorsqu'une lettre vient de très loin, elle met du temps à nous arriver. Lorsqu'un photon vient de très loin, il met du temps à nous arriver. Et donc, on va regarder les objets les plus rouges, parce que ce sont ceux dont la lumière a mis le plus de temps à voyager, parce qu'elle a été étirée, elle était partie, elle était bleue, elle est arrivée rouge, elle a été étirée par l'expansion de l'univers. Et puis on va voir les blancs qui vont nous dire, ah bah là, ce sont des galaxies qui font partie d'une grande famille de galaxies, un amas de galaxies qui sont en train de vivre telle ou telle chose. Et puis des galaxies oranges qui sont complètement déformées par des déformations de l'espace-temps qui sont engendrées par cet amas de galaxies. Et donc les galaxies oranges vous disent ce qui s'est passé il y a quelques milliards d'années. Et tout de suite, avec la couleur, vous avez une idée du temps et des pages que vous avez remontées dans le livre d'histoire. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Les couleurs sont fondamentales. Elles sont à la fois belles et informatives. J'aime bien dire le fait que lorsque vous voyez un tableau comme cela, ce tableau, c'est un faux, mais un faux informatif.
Un faux informatif. Et dans ce tableau et dans ces couleurs, il y a aussi du blanc. Vous avez parlé d'espace où on ne voyait rien. Il y a aussi des filaments. Parce qu'au fond, dans cette danse du cosmos, dans cette danse des étoiles et des galaxies, dans ces rivières cosmiques, il y a à chaque fois des filaments, des choses qu'on ne voyait jamais avant. Comment on peut dire ça,
Alors, il y a à la fois dans notre galaxie, la Voie lactée, des filaments dans lesquels naissent les étoiles. Et puis, les filaments qui nourrissent les galaxies sont trop peu denses pour être visible même au James Webb.
Ah, même au James Webb.
Voilà. Et donc là, on est en train de construire de nouveaux instruments pour essayer de les voir. On essaye de percevoir leur influence par différents moyens. On commence à avoir des indices. Et là, on rentre dans les mystères de l'invisible qui est non seulement invisible à nos yeux, mais invisible aux couleurs de l'invisible, c'est-à-dire même à l'infrarouge, comme la matière noire, l'énergie noire, ces fleuves cosmiques qui sont dans une certaine manière invisibles. Et donc là, on est obligé d'utiliser notre modélisation, l'extraction par l'abstraction de ce qu'on observe, l'extraction de théories qui vont nous permettre de voir l'invisible encore plus loin que même le James Webb. Il est impossible de comprendre les images, même si elles sont belles, du James Webb, sans une théorie avec. Avec les avantages et les inconvénients, c'est que la théorie peut vous guider sur de mauvaises pistes. Donc il faut être capable de voir ce qu'on n'attendait pas. C'est un défi de tous les jours.
Il faut être capable de voir ce qu'on n'attendait pas, donc de voir ce qu'on ne cherchait pas, du côté de la sérendipité, là, c'est ça.
Exactement. Ça, c'est le plus. Disons que c'est le plus grand défi, à mon sens, pour un scientifique, c'est d'être capable de voir ce qu'il n'attend pas. Alors, si vous passez votre temps à être surpris et à remettre en question vos théories, vous n'avancerez pas.
Bien sûr.
Mais il faut être quand même capable de questionner en permanence et de voir ce qu'on n'attend pas. Par exemple, dans cette image dont je parlais tout à l'heure du champ profond, il y a ce qu'on appelle des fantômes cosmiques, des lentilles gravitationnelles.
Des fantômes cosmiques.
C'est-à-dire qu'une même galaxie est vue 4-5 fois. Alors qu'elle n'existe qu'une seule fois. Ce sont donc des fantômes de cette galaxie qui viennent de la déformation de l'espace-temps, un peu comme si vous jetiez une pierre dans l'eau, elle fait des vagues, et puis ces vagues vont refléter chacune, par exemple, votre lampe de poche. Et donc, avec cet effet-là, on va voir votre lampe de poche plusieurs fois sur la surface de l'eau. Et c'est ce qui se passe dans l'univers avec les déformations de l'espace-temps. Et la première fois qu'un astronome a été confronté à ça, il n'y a pas cru. Et donc, il a eu du mal à voir ce qu'il avait devant les yeux. Ça a été toute une histoire.
Oui, donc il faut avoir vraiment l'esprit ouvert à tous les possibles. Il faut peut-être créer d'autres instruments, hein, comme cette caméra que vous avez créée en infrarouge. Et je veux bien qu'on revienne aussi sur cette fascination qu'on a tout de même pour ces images. Parce que quand on les regarde, alors que ce soit celle de la couverture ou d'autres, on se dit qu'elles ressemblent à d'autres images que l'on connaît. Je propose à ce sujet le regard croisé de deux chercheurs. L'un est astrophysicien comme vous, c'est Éric Lagadec de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur. Et l'autre est neuroscientifique, physicien et médecin, c'est Denis Le Bihan. Il est pionnier de l'imagerie médicale de notre cerveau. Parce que les images de notre cerveau, avec des filaments, avec des neurones, ressemblent étrangement à celles que nous envoie le James Webb Télescope. Écoutez leur échange sur ce parallèle stupéfiant entre les images de l'univers et celle de notre cerveau.
Tout ce que je peux dire, c'est que quand on regarde des images, des simulations de la formation de l'univers juste après le Big Bang, on voit des sortes de réseaux. Et chaque fois que je montre ces images, les gens ont l'impression que ce sont des réseaux de neurones. Il y a vraiment un mimétisme entre ce qui se passe à vraiment à très grande échelle et à plus petite échelle dans notre cerveau. Et c'est assez spectaculaire. Et je vous garantis que si je vous montre une photo des deux, je ne suis pas sûr que vous saurez reconnaître laquelle est la simulation de la formation de l'univers et laquelle est un réseau de neurones.
Donc, en fait, quand on regarde des images qui viennent de l'astrophysique ou des images qui viennent de la neuroimagerie, si on ne sait pas d'où elles viennent, il y a des analogies qui sont plus que des analogies. Il y a vraiment des points communs, à tel point qu'il y a même des logiciels qu'on utilise qui sont les mêmes pour les deux. Vous voyez, c'est à ce point-là.
Denis Le Bihan, qu'on vient d'entendre, nous expliquait, spécialiste, un créateur du synchrotron, donc vraiment spécialiste de l'imagerie du cerveau, nous expliquait qu'il y a les mêmes logiciels pour étudier l'imagerie cérébrale et l'imagerie de l'univers.
Oui,
micro et macrocosme. Neurospin.
Oui, oui. Eh bien, effectivement, avec un ami neurobiologiste qui s'appelle Alain Destex, on a même fait un spectacle au Planétarium de la Cité des Sciences où on voyageait dans l'univers et dans le cerveau. Par exemple, nous avons environ 100 milliards de neurones dans le cerveau, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, il y a environ 100 milliards de galaxies dans l'univers observable, il y a ces filaments qui ressemblent aux axones qui relient les cellules de l'univers que sont les galaxies. Bon, tout ça, c'est esthétique. Ensuite, il y a ce que dit Denis Le Bihan, c'est qu'on peut utiliser des logiciels pour quantifier le type de réseau, comment ça se connecte, etc., qu'on peut utiliser dans les deux. Et puis après, il y a l'exploration de ce qu'on ne sait pas encore. Est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a appris sur le cerveau pour comprendre l'univers et vice-versa? Donc, on s'est amusé à ce jeu-là avec mon ami neurobiologiste. On s'est rendu compte qu'on avait, lui et moi, fait une petite découverte, enfin, à notre échelle, qui était à peu près la même dans le cerveau et dans l'univers. Alors, quelle est-elle? Dans le cerveau, on pensait pendant longtemps que l'activité des neurones venait d'excitation. Et l'inhibition jouait un rôle mineur. Et puis on a réalisé qu'en fait, l'excitation jouait un rôle mineur. Ce qui comptait, c'était plus l'inhibition. Et nous, dans l'univers, on pensait que c'était les flambées d'étoiles qui étaient des excitations de la formation d'étoiles qui étaient la règle. Et puis on s'est rendu compte que non, avec ces fleuves, les galaxies forment leurs étoiles à un rythme régulier. Ce qui va compter, c'est l'inhibition. C'est ce qui va faire que les galaxies ne dansent plus, qu'elles ne font plus d'étoiles, etc.
Donc c'est pas l'excitation. Il y a un mouvement perpétuel, une danse perpétuelle, mais c'est pas l'excitation qui fait la chose. C'est au contraire, c'est d'inhiber, c'est de sculpter.
C'est ça. Le grand enjeu, c'est l'inhibition. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va plus recevoir cet influx qui est en permanence. En fait, c'est pas simplement de temps en temps vous avez un petit influx, paf, comme ça. Okay. C'est permanent. Et du coup, vous allez le réguler. Il y a une sorte d'autorégulation, quelque chose, puis à un moment donné, ça casse. Ou bien ça va être plus ou moins fort. Et si vous régulez moins, si vous inhibez moins, c'est un peu comme si vous excitiez. Et donc, ce genre de raisonnement, c'est un peu technique ce que je dis là, mais c'est...
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est le mouvement, la danse qui est fondamentale et importante, mais il faut que cette danse, elle soit continue, enfin qu'il y ait un mouvement continu,
c'est ça. Alors, la danse est le résultat de cet apport... En permanence, dans le cas des galaxies, parce que pour le coup, les neurones, là, vont pas
danser,
il y a l'analogie et limite, bien sûr. C'est que la danse, c'est le fait que la galaxie, si elle ne dansait pas, la gravité ferait s'effondrer la matière. Et le fait qu'elle rayonne de la lumière, qui est l'élément clé, ferait qu'elle formerait toutes ses étoiles en un coup. Du fait qu'elle danse, eh bien, il se passe la même chose que la Terre par rapport au Soleil. Du fait que nous tournons autour du Soleil, nous ne tombons pas dans le Soleil. Mais la galaxie tourne tellement vite... Elle tourne tellement vite qu'il ne devrait pas naître la moindre étoile dans la galaxie. Alors comment se fait-il qu'il naît des étoiles? Il naît des étoiles parce qu'il y a des vagues, ce qu'on appelle les bras spiraux de la galaxie.
Les bras spiraux, qui
ressemblent à un derviche tourneur vu de dessus. Et ces bras, lorsqu'ils passent dans l'océan du disque de la galaxie, engendrent de l'écume et qui va créer la fertilité de la galaxie, qui va faire les étoiles. Or, Dans l'océan, on mesure la fertilité, la fécondité des vagues, vous savez comment ? Par la couleur. Et que reflète la couleur des vagues ? Elle reflète la présence de micro-organismes. Eh bien, dans les vagues des galaxies, on trouve les molécules complexes, qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont l'équivalent des micro-organismes qui montrent la fécondité des galaxies. C'est une analogie qui est parlante à nouveau.
Donc l'espace, sous la mer, faut la danse, vous avez parlé des derviches tourneurs, et voilà pourquoi c'est votre choix musical, David Elbaz, autour de la question pourquoi tout l'univers danse et pourquoi nous sommes, nous, aussi les enfants de la danse des étoiles et des galaxies. Vous avez choisi d'écouter. Alors, on est à la radio, on ne peut pas aller voir les derviches tourneurs, mais je vous invite, chers amis auditeurs et auditrices, à aller voir sur Internet ces danses sacrées des derviches tourneurs qui tournent comme le cosmos, à regarder sur YouTube par exemple et à écouter tout de suite sur RFI la danse des derviches tourneurs de Konya en Turquie. La musique et la danse des derviches tourneurs de Konya en Turquie sur RFI, c'est votre choix musical, cher David Elbaz, astrophysicien que vous êtes, reconnaît dans cette danse des derviches tourneurs la danse du cosmos, qui est le sous-titre de votre ouvrage.
Oui, parce que l'analogie est vraiment troublante et parlante, c'est-à-dire que la vie, c'est le mouvement. C'est vraiment cette danse-là. Si on arrête de danser, si on arrête de bouger, on n'est plus vivant. Le cœur bat, tout bat. Et dans l'univers, finalement, il n'y a qu'une seule action à distance qui existe, c'est l'attraction gravitationnelle. Et donc, il n'y a pas de mouvement a priori, il y a juste une attraction, un seul mouvement. Mmh. Et pour arriver à cet univers avec toute la complexité qu'on connaît, eh bien, on s'aperçoit que la matière s'est mise à danser. Les électrons dansent autour des noyaux d'atomes. Les planètes tournent autour des étoiles. Les étoiles tournent autour du centre des galaxies. La matière tourne autour des trous noirs. Les galaxies tournent autour les unes des autres, etc. Et tout ce mouvement-là, c'est quelque part la réaction avec laquelle la matière finalement résiste à la gravité et permet cette tension qui va engendrer la complexité. Dans l'univers. Et lorsque les derviches tourneurs dansent, ils ont ce mouvement avec. Quand on les regarde de dessus, on voit vraiment ces bras en spirale avec une main vers le haut, une main vers le bas, et qui ressemblent vraiment aux bras des galaxies qui sont la source de fécondité des galaxies. Donc il y a vraiment ce mouvement de tourner et puis d'engendrer par des vagues les nouvelles étoiles.
Il y a une intuition formidable de ces derviches tourneurs. Est-ce qu'il y a un sens ? Parce que les derviches tourneurs, ils tournent dans un sens bien précis avec un bras plus bas et un bras plus haut et leur chapeau.
Alors les derviches tourneurs tournent dans un sens bien précis, mais dans l'univers, les galaxies sont insensées.
Insensées ? Ah, non, pas de sens. Autour de la question, jusqu'où nous entraînera la danse du cosmos révélée par les images du James Webb Télescope, grâce auquel nos origines et l'essentiel n'est plus tout à fait invisible. Alors, est-ce que ces extraordinaires images des champs profonds de l'univers à remonter le temps et l'espace, cette danse des galaxies, des étoiles, nous mettraient sur la trace d'autres formes de vie dans l'univers, cette fameuse quête, depuis qu'on découvre, vous l'avez dit, de tant et tant d'exoplanètes. Question à ce sujet, soulevée par un autre de vos éminents confrères, l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring, en charge, entre autres, du robot Philae sur Rosetta et de l'exploration cométaire, qui était récemment notre invité autour de son ouvrage « Seul dans l'univers ». Écoutez Jean-Pierre Bibring, qui aura une question à vous poser, David Elbaz.
Salut David. Tu sais que plus ça va et plus je suis convaincu que l'évolution de la chimie carbonée arrive à une incroyable diversité de formes possibles, dont le vivant sur Terre est une d'entre elles, et très particulier à ce que la Terre est devenue. Comme le Web va évidemment regarder des exoplanètes en grande quantité, moi je me méfie toujours du réflexe qu'il y a dans notre communauté qui est d'essayer de retrouver que c'est partout pareil, ce réflexe unificateur souvent binaire. Je pense que la grande chance que vous aurez, parce que moi je ne suis pas vraiment impliqué dans ces observations-là, c'est de montrer que la diversité de l'évolution de la chimie carbonée, on la retrouve grâce à vos observations dans toutes les exoplanètes qui vont être explorées. Donc j'espère que ça sera l'une des trouvailles que vous aurez et j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y aura possibilité avec ce télescope de mettre en évidence la diversité des atmosphères des exoplanètes et si possible, non seulement de mettre en évidence la diversité, mais de comprendre l'origine de cette diversité au niveau des processus qui ont fabriqué des objets tellement différents.
Qu'en pensez-vous, David Elbaz ?
Alors c'est vrai, Jean-Pierre Bibring a raison, il y a un défi fondamental quand on fait de l'astrophysique et de la science en général, c'est que tout ce qu'on observe est singulier. Il n'y a pas deux êtres humains qui ont le même visage. Il n'y a pas deux planètes pareilles.
Il n'y a pas deux étoiles pareilles.
Il n'y a pas deux étoiles pareilles. Il n'y a pas deux galaxies pareilles. Et néanmoins, on essaye de tenter d'abstraire une forme d'universalité à partir de la singularité. Donc c'est là le défi.
Et la question... C'est comme ça qu'on cherche la vie, finalement. La vie extraterrestre, on essaye de la trouver dans des planètes qui ressembleraient à la nôtre, dans des systèmes qui ressembleraient aux nôtres.
Alors, la vie, c'est encore... une autre étape, c'est-à-dire que là, je disais, par exemple, sur le simple fait qu'on va essayer de trouver des lois universelles. Pour ce qui est de la question qui est posée, et vous avez raison de poser la question de la vie et des diagnostics de complexité dans les autres planètes, dès 1995, lorsque Michel Mayor et Didier Queloz découvrent cette première exoplanète, elle n'aurait pas dû exister. Elle n'aurait pas dû exister parce que c'est une planète qui a une influence sur son étoile, comme si elle était massive, aussi massive que Jupiter, mais elle tourne en 4 jours autour de son étoile, elle est toute prête. Alors, c'est impossible parce que près des étoiles, il n'y a que des planètes telluriques, parce que, pour des raisons. C'était impossible. Et on a vu que c'était le fait qu'il y avait eu des migrations planétaires qui ont permis ça. Et voilà. Donc, on connaît des systèmes, on connaît à peu près maintenant 5000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles.
D'autres soleils.
Et elles sont toutes différentes les unes des autres. Voilà. Donc la singularité, elle est là. Ensuite, ce qu'on va chercher, c'est avec le James Webb, on va essayer de reconnaître des molécules qu'on connaît, le méthane, l'ammoniac, l'oxygène, l'eau, etc. Bon, donc là, c'est un peu des diagnostics classiques. Mais déjà maintenant, là, je peux vous le dire, un papier qui est en cours par Pierre-Olivier Lagage et ses collègues.
En exclusivité.
En exclusivité. J'espère qu'il m'autorise à le dire, tant pis, je le dis. C'est de l'oxyde de soufre dans l'atmosphère d'une exoplanète qui n'était pas attendue. Et pourquoi n'était-elle pas attendue ? Parce qu'on avait tellement peu de données avant qu'on n'avait pas des modèles capables de reproduire toute cette singularité, toute cette richesse, cette complexité. Donc on est confronté à une complexité beaucoup plus riche que ce qu'on attendait, mais ce qui est normal.
C'est toujours plus complexe, toujours plus divers, toujours plus singulier.
Voilà,
enfin,
toujours
c'est ça,
plus singulier. Alors après, il y a votre question. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous sommes seuls dans l'univers ? Alors je vais vous dire une chose. Si sur les environ 10 milliards de planètes qui pourraient avoir de l'eau liquide à leur surface dans notre galaxie, toutes avaient de la vie. Disposons-nous des moyens techniques pour le savoir ? Et la réponse est non.
Ah oui, on ne saurait même pas.
On ne peut pas le savoir parce qu'on on est en train de détecter maintenant quelques molécules pour faire des diagnostics, pour voir à peu près quelle est la pression, la température, etc., d'atmosphère de quelques planètes un peu extrêmes, les plus brillantes, etc., les plus grosses. Des planètes terrestres, on ne sait pas les étudier encore. Voilà. Donc on va faire le LT à 39 mètres de diamètre au Chili. On est en train de commencer cette exploration. Et donc s'il y avait de la vie partout dans l'univers. Hein. Je ne dis pas qu'il y a de la vie partout. Mais s'il y avait partout de la vie dans l'univers, on ne le saurait pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie partout, ça veut juste dire qu'on ne peut pas le savoir.
Et qu'en plus, cette vie serait probablement, puisqu'à chaque fois c'est singulier, singulière et différente des formes de vie qu'on connaît.
Alors voilà, elle sera complètement différente de ce qu'on connaît. Alors après, on pense qu'elle sera sur la base de la chimie, avec de l'eau, etc. Parce qu'on disons qu'on sait que c'est quelque chose qui va faciliter pour la polarité, la molécule d'eau, etc. C'est pas pour autant que c'est la seule forme de vie possible. Mais moi, j'ai un a priori. Je veux dire pourquoi. C'est que, en fait, quand on regarde l'histoire de l'univers, l'univers n'a cessé de former des formes de plus en plus singulières et complexes depuis le Big Bang. Les atomes, les molécules, des molécules de plus en plus complexes, les grains de poussière, les étoiles, les planètes et même la vie. La vie n'est pas une rupture dans cette histoire de l'organisation de la matière. Elle s'inscrit dans une histoire de complexité croissante.
C'est une continuité.
C'est une continuité où la lumière joue un rôle fondamental pour dans structurer la matière. C'est elle qui va... L'être vivant, et l'être qui c'est la machine qui rayonne par kilogramme le plus de lumière, le plus grand nombre de particules de lumière. On rayonne 200 000 fois plus de particules de lumière par unité de masse que le Soleil. Et donc, et ça, c'est ce qu'on appelle de l'entropie. E-N-T-R-O-P-I. La lumière, c'est une source d'entropie. Et donc, à partir du moment où on voit que le vivant répond le mieux au principe, à la seconde loi de la thermodynamique, eh bien, on s'aperçoit que finalement, comment pourrait-on expliquer par un pur hasard que la vie arrive, alors qu'elle répond à ces lois-là? Ça veut dire pas du tout que la vie est nécessairement présente partout ailleurs, mais ça veut juste dire que ce n'est pas une rupture. Elle s'inscrit dans une continuité. Et donc, pensant cela, je suis tenté de penser qu'il y a de la vie ailleurs, mais on ne le sait pas pour l'instant.
La vie, le cosmos, nos vies, même notre cerveau, vous avez parlé de lumière, vous avez parlé de danse et de mouvement. C'est ça, en fait, la vie, dans le macrocosme comme dans le microcosme. Ça serait au moins lumière et mouvement et danse.
Bah, c'est ça que j'aime, effectivement. C'est pour ça que le livre, je l'ai appelé « Les 10 000 nuits de l'univers ». C'est que c'est un récit qui fait rêver. Et je pense qu'on a besoin de rêver aujourd'hui, tout en étant près de la réalité. C'est le récit de nos origines. Ça permet de nous situer dans l'histoire, dans notre histoire, dans une histoire qui nous ressemble et qui est le prolongement de la nature, de la forêt amazonienne. Eh bien, son prolongement, c'est le quintet de Stéphane. C'est tout ça, sur les échelles de temps et d'espace plus grandes. Toute cette richesse-là, c'est nous, c'est notre histoire. Et ça prouve à quel point, et là, je rejoins complètement Jean-Pierre Bibring, entre guillemets, le miracle de la vie sur Terre est précieux. Parce qu'il est l'histoire de 13,8 milliards d'années et que ce n'est qu'en travaillant ensemble les uns les autres dans cette quête de la complexité qu'on pourra avancer.
Merci infiniment, David Elba. J'ai pas envie de m'arrêter parce que j'aimerais bien savoir un peu sur quoi vous travaillez, mais on va voir les publications sortir, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette hallucinante danse du cosmos. C'est le sous-titre de votre ouvrage à nul autre pareil, qui vient de paraître donc aujourd'hui même chez Odile Jacob. Je rappelle son titre, Les 10 001 nuits de l'univers. Magnifique titre. Et nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. On en profite pour saluer tout notre réseau d'astronomes amateurs sur le continent qui font de sacrément belles observations en partageant leurs télescopes, offerts par SSVI et RFI. Bravo à toutes et tous. Merci, cher David Elbaz, de partager votre science astrophysique, astronomique.
Merci Caroline Wojcicki pour m'avoir invité et m'avoir donné l'occasion de parler avec tout ce public.
Et vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à Jérémy Besset, à la réalisation aujourd'hui, avec Valentine Lemaire en coulisses. On se retrouve lundi, si vous le voulez bien, pour nous intéresser cette fois-ci aux gorilles, avec la primatologue Shelly Massy du Muséum National d'Histoire Naturelle, de retour du bassin du Congo. La spécialiste des gorilles sera notre invitée lundi prochain, 14h temps universel, 15h en heure d'hiver cette fois-ci à Paris. Merci pour votre curiosité.